Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La Banque Centrale du Congo vient de retirer l'autorisation de fonctionner à Mining Bank of Congo sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Elle reproche à cette institution financière non seulement son inactivité, mais aussi d'avoir logé leurs capitaux à l'extérieur de la RDC. Ceci relance le débat sur la qualité de service qu'offrent les banques opérationnelles à travers le pays. La question du débat, que pensez-vous de la qualité de service qu'offre la banque opérant dans votre milieu? Pour participer à ce débat, composez les 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre à notre courriel pa@radiokapi.net. Titi Mpoutou, Sylvain Matundu et Pierre Lamegi réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Depuis une dizaine d'années, on assiste à une prolifération de messageries financières et autres banques, particulièrement à Kinshasa et dans certaines grandes villes des provinces à travers le pays. Plusieurs raisons sont à la base de cette multiplication d'acteurs dans les systèmes bancaires congolais. Professeur André Moloto, vous êtes monétariste et directeur général honoraire de la Banque des Crédits Agricoles. Vous êtes notre invité. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonne année à tous les auditeurs de Radio Kabi.
Et bonne année à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur, quelles seraient les raisons de ce boom bancaire qu'on connaît actuellement en République démocratique du Congo?
Écoutez, c'est lié. Je voudrais d'abord corriger quelque chose. Je ne suis pas monétariste. Je suis spécialiste en économie de développement et non monétariste.
Voilà, merci.
Non. Cette présidence a donné le boom peut s'expliquer par l'augmentation de la production, surtout minière.
Voilà, professeur, on vous saisit pas bien là, vous sortez entrecoupé.
Non, mais je vais dire d'abord.
Voilà, si vous pouvez éteindre votre poste récepteur, parce que là, ça fait.
Je n'ai pas de poste récepteur. Peut-être bon. Est-ce que je sens mieux?
Bon, plus ou moins, mais pas tellement de bonne qualité. Donc, nous risquerons d'avoir des petits problèmes, des petits pépins de communication tout au long de cette émission avec vous. Voilà, allez-y.
Bon, je disais que d'abord, je ne suis pas monétariste. Hein,
oui, ça, on a corrigé
en économie des développements. Alors, le boom enregistré dans le domaine bancaire, c'est dû au boom de la production minière, particulièrement.
Voilà. Alors, nous venons d'apprendre le retrait par la Banque Centrale du Congo de l'autorisation de fonctionner à Mining Bank of Congo. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à cette banque?
Alors, il faut demander à la Banque Centrale. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que les causes qui peuvent expliquer le retrait. Je ne peux pas vous dire les raisons, je ne suis pas à la Banque Centrale. Alors, moi, je trouve qu'il y a trois causes qui peuvent expliquer le retrait. La première, c'est le non-respect des ratios structuraux. C'est très technique, mais la Banque Centrale exige aux banques, à toutes les banques, d'avoir un ratio de liquidité minimum. Un ratio de solvabilité minimum et le capitaux propre de moins de 10 millions de dollars. Voilà pour la première raison, les ratios structuraux. Deuxième raison qui peut expliquer ça, c'est le soupçon de blanchissement. Je ne sais pas. Est-ce que cette banque opérait le blanchissement d'argent? Je ne sais pas. Ça, c'est à la Banque centrale de répondre à ça. Troisièmement, la raison, il y a les raisons qui peuvent être purement politiques. Je ne sais pas. Dans le passé, on a vu des banques qui ont été liquidées parce que le FMI l'a demandé. C'était le cas de la BCA, de la MDK et de l'ex-BDP, des banques du peuple. Hein? Bon, c'était tous les banques d'État. Une des conditions de la poursuite de la coopération avec le FMI, c'était qu'on liquide toutes ces banques d'État. Bon, pourtant, ceux qui les géraient, je prends le cas de la BCA, qui a eu des personnalités éminentes comme Bossossa Wande Akossa, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui a eu le feu professeur Kindondi, qui était PDG de la Banque centrale. Bon, à la NDK, il y avait un ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, Mawakani. Il est actuellement conseiller du gouverneur à la Banque centrale. Il y avait Mbendo à la Banque du Peuple, ancien vice-gouverneur. Bon, il y avait des gens compétents à la tente pour ça. Mais une décision politique a fait que, bon,
on puisse liquider.
On a liquidé toutes ces banques.
Voilà, donc nous comprenons, parce que nous avons tous suivi les communiqués de la BCC qui parlait, on reproche donc à Mining Bank d'avoir logé les capitaux à l'extérieur, donc à l'extérieur de la RDC, et aussi l'inactivité depuis qu'ils ont été autorisés de fonctionner. Elles ne sont pas, cette banque, elle n'est pas opérationnelle. Mais actuellement, les services, professeur, qu'offrent les banques et autres messageries financières, se situent à quel niveau en regardant, parce que vous avez parlé, vous avez accepté qu'il y a ce boom, mais en regardant ces banques fonctionner, ce qui fonctionne, parce qu'actuellement nous avons tout autour 22 ou 23, si ma mémoire est très bonne, 23, 24 banques qui sont vraiment opérationnelles depuis 2009. Les services qu'offrent ces banques se situent à quel niveau?
Ben écoutez, bon, le service, moi je parle sur le plan purement théorique, c'est le service d'une banque, c'est mobiliser l'épargne et donner le crédit. Je crois que c'est ce qu'ils font. Bon, le malheur dans tout ça, de toutes ces banques qui prolifèrent, il faut voir d'abord leur origine. Ils sont plus ou moins les Libanais ont leur banque, deux ou trois banques. Les Indo-Pakistanais ont deux ou trois banques. Les Américains, ils ont leur banque. Hein, tel que Fungurume ne met son argent qu'à la Citibank, c'est normal, puisque c'est une banque américaine. Et ainsi de suite, et il n'y a aucune banque congolaise, rien du tout. Or, peut-être qu'il n'y a pas d'entrepreneurs congolais qui peuvent mobiliser 10 millions de dollars pour avoir l'agrément de la Banque centrale. Mais nous enseignons en économie de développement, là où il n'y a pas d'entrepreneur, il y a un substitut. Il y a l'État. Le substitut, c'est l'État. Et je suis heureux maintenant que le gouvernement du Premier ministre Matata Mpoyo revient maintenant à la réhabilitation des banques d'État. Vous avez suivi ce week-end, il vient de donner 10 millions à la Sofidé, qui est une banque de développement, et c'est heureux. Bon, on parle de réhabiliter de la BCR, c'est heureux, mais parce que là, la majorité de la population congolaise vit de l'agriculture, mais dans l'arrière-pays, il y a aussi une bancarisation.
Il y a une couverture des banques.
C'est 23 banques. Mmh. Ils sont ici à Kinshasa et à Lubumbashi.
Tout à fait, dans les grandes villes.
Hein? Bon, alors, donc, ce qu'ils donnent pour la population, et ils n'octroient pas de crédit. Ils n'octroient que de crédit à court terme. Et à l'heure étourdissant. Bon, écoute, moi, je ne sais pas évaluer ça.
Voilà, merci. Merci, professeur.
Moi, à mon avis, c'est très, très, très négatif.
Très négatif, très faible. Ça se situe à un niveau, la couverture de bancarisation est très, très, très faible. C'est au regard, donc, toutes ces banques-là sont concentrées à Kinshasa et quelque peu dans des grandes villes de certaines provinces. On va y revenir d'ailleurs sur cette question, tout en rappelant à nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent nous contacter au 081-890-6315 pour participer à ce débat autour du système bancaire congolais.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur en ligne, Théodore qui est en Mbujimayi et Augustin Matata est à Kananga. Nous allons le prendre aussi d'un moment à l'autre. Théodore, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Jean.
Voilà, Théodore, vous avez suivi notre invité qui, lui, a évoqué également les niveaux de la couverture de bancarisation qui est aussi très, très, très faible. Aujourd'hui, il a évoqué également la question sur les crédits qui sont octroyés, qui ne sont que des crédits à court terme, qui ne peuvent pas donner l'occasion, normalement, à la population de pouvoir, disons, se passer de cette pauvreté. On ne peut pas lutter réellement à la pauvreté. Théodore, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Je sais qu'avant de vous donner une information ou soit un témoignage, je dirais pour moi que la mesure d'annuler les mining banques sur les familles du pays est une bonne chose. Ces banques arrivent chez nous au Congo et occupent des immeubles repeints de murs et engagent quelques têtes par recommandation. Vous savez, dans un pays où la population n'a pas la confiance dans des banques, suite peut-être aux événements passés des tristes mémoires, vous savez ce qui s'est passé ici au Congo à l'époque, jusqu'à ces jours, la population n'a pas confiance en des banques. Ici, en Guinée, par exemple, nous avons des difficultés pour les transferts des capitaux vers l'extérieur du pays. Et sur place même, nous avons des problèmes. Nous amenons des marchandises que nous vendons en francs congolais localement. Et quand nous rendons à la banque pour changer les devises, il n'y a plus de devises dans toutes les banques sur place. Et ce sont des difficultés. Alors, nous échangeons les devises dans des moyens vraiment parallèles, et c'est là, avec beaucoup de pertes. C'est ainsi, je peux dire que pour obtenir vraiment ces devises, c'est casse-tête. Ces banques n'attendent que les mouvements des opérateurs économiques qui sont comptés des doigts, par exemple. Et pour terminer, je dis que pour votre information, je dis, ici, à Mbujimayi, il y a un nombre des opérateurs économiques qui ont perdu beaucoup d'argent il y a maintenant 2-3 ans à l'Union de banques congolaises. Et les opérateurs économiques qui effectuent des voyages à l'extérieur du pays sont bloqués. Ils ne savent où toquer pour faire des réclamations de leur argent. J'ai vraiment fait.
Oui, parce que vous avez parlé de l'UBC, donc vous voulez parler de la banque congolaise, BC, qui
oui,
a été dernièrement liquidée.
De banque congolaise.
Oui, parce qu'il y avait un audit qui a été diligenté. Jusque-là, il n'y a aucun rapport sur l'audit. Je crois que dans les jours à venir, ceux qui sont censés donner l'information à la population les feront pour que chacun de nous puisse en avoir un carnet et avoir des informations suffisantes par rapport à la banque congolaise, parce qu'il y avait de bruit de couloir qui parlait de redémarrage des activités de cette banque. Bon, voilà. On va peut-être y revenir très prochainement dans un autre débat. Théodore, merci. Augustin, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, c'est JR qui est en antenne, Augustin Matata. Voilà, Augustin, vous avez également la parole.
C'est pas Augustin Matata, on vous l'a dit, c'est Augustin Zouma.
C'est Augustin Zouma. Voilà. Et... allez-y, Augustin.
Oui, le système bancaire chez nous au passage occidental reflète un pourcentage tellement faible. Dans les conditions que la gestion de ce système-là n'est pas planifiée chez nous ici au passage occidental, nous avons plusieurs opérateurs économiques qui ont la bonne volonté mettre dans la caisse centrale ou bien dans la banque.
Oui, Augustin, s'il vous plaît, avant que vous poursuivez, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les nombres de banques qui opèrent à Kananga actuellement?
Ah bon, chez nous ici à Kananga, nous avons la Banque Centrale du Congo. En même temps, cette banque ici assure la gestion bancaire, en même temps la gestion commerciale. Mais surtout en ce qui concerne le système bancaire, et je vous avais dit au départ que ce système ici représente un faible pourcentage dans les conditions que beaucoup d'opérateurs économiques n'ont pas la bonne volonté. Non, ils ont la bonne volonté de mettre dans la caisse leurs comptes, mais ils ont un retard au retrait de ces comptes. Parfois, on peut mettre un opérateur économique à 1 million de dollars, ou bien 500 millions de dollars parfois, mais autour du ils connaissent des perturbations. Et ça, c'est qui freine un peu le développement du système bancaire au Qatar occidental.
Ben alors, celles qui existent, les banques qui sont opérationnelles, offrent quand même des services de qualité?
Ah, pas tellement, parce que du jour au jour, nous racontons beaucoup de difficultés Par exemple, les salaires des fonctionnaires de l'État. Nous avons encore connu les mêmes problèmes ici, tous les deux mois passés. Même les mois derniers ici, nous avons connu la même difficulté en fait. Il n'y a que le terme n'est pas prêt, mais ce que je peux vous montrer, toutes les banques opérant au Kassai occidental présentent de grandes difficultés énormes.
Merci beaucoup Augustin. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Séraphin, vous avez suivi vos prédécesseurs. Qu'est-ce que vous allez nous dire concrètement par rapport à cette question? Que pensez-vous de la réalité de service qu'offre la banque opérant dans votre milieu à Ouvira?
Donc, merci de l'opportunité que vous m'accordez une fois de plus de passer à votre émission. Je salue d'ailleurs l'invité qui est aussi au bout de fil. Et je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je vais aussi de suivre mes prédécesseurs avec beaucoup d'intérêt. Mais moi, je pense que dans un pays respectueux, l'activité financière doit être une activité la plus réglementée. Des dispositions réglementaires tant à la profession d'une banque que pendant son exercice. Et parmi les dispositifs réglementaires d'une banque, on retrouve la restriction à l'entrée. Il y a aussi le respect des normes prudentielles de gestion. Et il y a aussi lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mmh. Alors, moi, j'ai suivi l'invité. Il a eu à évoquer un certain nombre de ce que moi, je viens aussi d'évoquer. Notamment quand ça concerne les restrictions à l'entrée. Donc, c'est-à-dire, avant le début de l'exercice de la profession, une banque doit obtenir un agrément délivré par la banque centrale. Et c'est cette obtention est subordonnée à un certain nombre de conditions d'ordre juridique et économique. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, avant l'entrée en exercice d'une banque, il doit y avoir d'abord la constitution sous forme d'une société par action à responsabilité limitée. Et la banque doit produire des preuves de libération du capital minimum fixé à 10 millions de dollars, comme il y a sous le vœu d'invité. Mais ce que j'ai suivi à votre chaîne, donc c'est grave, c'est étonnant. Comment se fait-il faire? Une banque qui est la République démocratique du Congo peut loger son capital au niveau extérieur. Donc cela veut dire que notre banque centrale n'a pas joué effectivement ce rôle. Donc c'est ce qui est un peu étonnant. Donc, il y a un certain nombre de légèretés au niveau de la Banque centrale. Et quant à ce qui concerne le respect des normes prudentielles de gestion, dans l'exercice d'activité d'une banque, la BCC doit contrôler si une banque implantée en République démocratique du Congo est-elle remplit certaines normes de gestion prudentielle. Et la mise en place d'une gestion prudentielle d'une banque est disponible. Vise à améliorer la sécurité du système bancaire. Et parmi ces dispositifs, il y a aussi le procès qui a évoqué là. Il y a les ratios de solvabilité. Donc la BCC doit connaître si une banque commerciale qui vient de se planter dans notre pays peut être à mesure de couvrir les risques de contrepartie. Et il y a aussi liquidité. Donc ça permettra à la nouvelle banque implantée de préserver les risques de liquidité en imposant à la banque à déterminer le minimum de trésorerie. Donc il y a aussi plusieurs sortes de ratios, des ratios de division des risques, il y a les ratios de surveillance et des positions de... Donc tout cela, la banque centrale devrait s'imprégner sur réellement cette banque avec la plus telle condition. Il y a aussi la lutte contre le blanchiment plutôt des capitaux et les financements du terrorisme. Donc moi je pense
pense que au niveau il y a un certain nombre de légèreté.
Oui, Séraphin, vous avez évoqué la légèreté. Ben, on aimerait un peu avoir une idée par rapport à votre analyse. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons vu plusieurs messageries financières s'est transformées en banques. Cette attitude ou cette façon d'autoriser rapidement une messagerie financière, autrefois, aujourd'hui banque, est-ce que ça ne peut pas aussi causer du tort au système bancaire? Parce qu'au début, on a autorisé comme messagerie, mais finalement, on l'accepte comme banque.
Non, c'est ça, c'est que je vous avais dit, parce que en acceptant, il y a des lois normalement qui régissent des banques, comme le professeur Aïe a évoqué, je viens aussi de le dire, avant qu'une banque puisse ouvrir, puisse commencer des activités, elle doit trouver la preuve de libération des capitales minimum fixée à 10 millions de dollars, parce qu'il y a des messageries qui n'ont pas de capital de 10 millions de dollars, mais la banque doit être conditionnée par ces capitales-là. Mais néanmoins, ce que nous constatons, il y a des banques qui commencent, mais qui n'ont pas même ces capitales. Et qui n'est pas même pas la preuve de libération de ses capitales. Raison pour laquelle je viens de vous dire qu'il y a un certain nombre de légèretés que la Banque centrale, normalement, doit se faire y remédier.
Alors, qu'en est-il pour vous de crédits octroyés est-ce que c'est pour vraiment répondre à ces soucis de lutte contre la pauvreté actuellement par les banques?
Bon, effectivement, mais néanmoins, il y a de limite des crédits parce que la banque, c'est un intermédiaire. Donc, l'intermédiaire des agents a besoin de financement et a capacité de financement. Donc, il y a aussi des limites que la banque ne peut pas aller au-delà. Mais néanmoins, lorsqu'on emploie des crédits, ça aide quand même à certaines personnes qui ont des projets d'investissement à aller de l'avant et investir dans leurs projets d'activité. Mais néanmoins, il y a aussi des limites que la banque ne peut pas dépasser et que la banque ne peut pas dépasser.
Merci beaucoup, Séraphin, d'avoir appelé à Ovira. Nous retenons une seule chose, que les contrôles qui devaient être faits au niveau de la Banque centrale en amont, tout comme pendant le suivi et aussi en aval, on se rend compte qu'il y a une certaine légèreté par rapport à votre position. Merci, Séraphin. Pascal, vous êtes à Manam, au Bahreïn, vous êtes avec nous, hein. C'est toujours un plaisir d'avoir des auditeurs congolais qui appellent de très loin. Pascal, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour monsieur.
Voilà, je rappelle que vous appelez de Manam, au Bahreïn, vous avez suivi vos prédécesseurs, vous avez la parole.
Oui, voilà, donc j'appelle de petites précisions de Manama au Bahreïn.
Oui, Manam, voilà, Manam.
Voilà. Alors, moi je vais répondre à la question à savoir est-ce que les banques jouent leur rôle au Congo. Je pense que c'était ça le sujet, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. En fait, les banques, nous parlons des systèmes bancaires.
Voilà. Alors, pour moi, j'estime que les banques ne jouent pas leur rôle en République démocratique du Congo. Elles ne jouent pas du tout leur rôle. Alors, quelle est la raison? Je pense qu'il faut voir historiquement comment est-ce que les banques se sont implantées au Congo. À la base, avant l'indépendance, donc il y avait des expatriés qui étaient au Congo. Il fallait la métropole les envoyer, il fallait leur payer un salaire. D'autre part, vous aviez des grandes entreprises comme la Gécamines, la MIBA, tout ça, qui devaient donc opérer toute une série de transferts financiers. Lorsque l'indépendance vient et nous accédons donc à notre autonomie, nous avons des banques. Mais quel est le rôle que jouent ces banques? Bien souvent, le commun des mortels, monsieur lambda, n'a pas accès à ces comptes-là. Il fallait être employé de l'État, employé de la Gécamines ou de la MIBA pour pouvoir avoir un compte. Ok. Quelques années plus tard, des conditions pour avoir un compte, on vous demandait d'avoir de certains montants d'argent, et voilà. Alors, est-ce que c'est ça le rôle d'une banque? Moi, je dirais ceci, aujourd'hui, on voit ou on entrevoit le Congo en vision d'agriculture. On voit qu'on a un potentiel d'agriculture, on se dit, voilà, il faut qu'on se lance dans l'agriculture. Mais les outils nécessaires pour un développement à l'agriculture, que devraient être les banques, que devraient être les institutions donc financières, ne jouent pas le rôle. Un agriculteur aux États-Unis qui va faire une plantation de maïs va s'adresser à une banque agricole. cette banque agricole va lui donner un crédit qui lui permettra, un, d'acheter du matériel agricole, qui sont très coûteux, des tracteurs, des pelleteuses, tout ça. Ensuite, un crédit nécessaire pour pouvoir lui acheter les engrais et tout ce dont il a besoin pour pouvoir travailler. Parce que l'agriculteur aux États-Unis, à partir du moment où il a son terrain, il faut le labourer, il faut préparer le terrain, ensuite il faut semer. Et tout ça, ça prend, n'est-ce pas, du temps. Et avant qu'on puisse voir un grain de maïs, il peut s'écouler, n'est-ce pas, 7-8 mois avant d'avoir une récolte. Alors, qu'est-ce qu'un agriculteur au Congo peut se comparer avec un agriculteur aux États-Unis? Lorsqu'on lui donne la terre qui est pratiquement gratuite, on lui donne peut-être des semences et des houes, et on dit, allez-y, on fait l'agriculteur. La banque ne joue pas son rôle. C'est-à-dire que la banque, si nous avions une banque agricole qui comprendrait ce système, oui, eh ben, elle pourrait participer au développement agricole du pays.
Oui,
les banques se cantonnent à prendre l'argent des gens, en fait. On vous donne des cartes de crédit qui ne sont pas des cartes de crédit, mais en fait, qui sont des cartes de débit. Vous devez mettre 2000, 3000 dollars sur le compte, ensuite on vous donne une carte. Alors quand vous voyagez, vous avez l'impression que vous avez une banque comme partout ailleurs. Mm-hmm. Mais pour moi, les banques ne jouent pas leur rôle au Congo.
Voilà,
et pour ça, c'est un débat qui devrait être amené au Parlement. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des propositions de loi au Parlement pour que les banques et les banquiers aussi puissent se sentir rassurés et jouent leur rôle. Donc, in fine, je termine par dire que les banques au Congo doivent être revues. C'est un problème historique de conception. La conception bancaire doit complètement être changée. C'est un problème qui doit être amené au niveau politique pour que les institutions financières puissent les appliquer. Voilà, monsieur.
Voilà. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir appelé de très loin et surtout d'avoir apporté cette contribution dans cette émission. 081 890 6315 pour participer en direct.
Parole aux auditeurs.
Professeur André Moloto, vous venez de suivre là la première série des auditeurs. Voilà, vous êtes en ligne. Hein. Si vous pouvez peut-être orienter toutes ces préoccupations qui venaient de sortir de chez les uns et les autres.
Pardon, répétez la question.
Voilà, je disais, vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Alors, que répondez-vous à ces préoccupations?
Mais ils m'ont presque tous rejoint. Bon, alors, la première chose, c'est le ratio structuraux de gestion. Ça peut expliquer l'élimination d'une banque. Alors, bon, le soupçon de blanchissement, ils en ont parlé. Et c'est avec intérêt que j'ai suivi un des auditeurs qui a dit ceci, la plupart de ces banques sont ici, se sont implantées, le boom c'est pour transférer les surplus miniers vers l'Occident. Alors là, ils rejoignent la théorie de Samir Amin, l'Africain, là, la théorie néo-marxiste, qui dit que ces capitalistes qui viennent avec leurs banques, pas pour réinvestir le surplus qui se dégage, pas pour réinvestir ça dans les pays, mais pour transférer, qui au Liban, qui au Pakistan, qui en Amérique. Voilà. Ils m'ont presque tous rejoint.
Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai, le client se plaint parfois sur les taux d'intérêt proposés par certaines banques qui parfois exagèrent. D'aucuns estiment qu'à ces niveaux, le contrôle par les autorités étatiques serait d'une grande importance. Nous avons même suivi Pascal qui a appelé des Manama de Barrel, qui a parlé de la légèreté qu'il faudrait éviter. Il faut qu'il y ait un contrôle drastique au niveau de la Banque centrale.
Mais non, mais je crois que là, la Banque centrale exerce son travail. Je ne peux pas dire si c'est bien ou c'est mauvais, mais apparemment, en ce qui concerne le taux d'intérêt, les banques sont là pour dans la recherche du profit. Si la Banque centrale fixe les taux d'intérêt à 10%. Eux, ils ne peuvent pas mettre ça à 7. Ils doivent mettre ça au-dessus des 10%. Alors, ils mettent à 13, à 15, quitte à vous à prendre ou à ne pas prendre. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas reprocher ça à la Banque centrale de contrôler. Nous avons opté pour le libéralisme économique. N'oubliez pas ça. Hein? La liberté de choisir. Bon. Alors, effectivement, il y a des craintes. La banque peut autoriser une banque qui n'a pas réuni les 10 millions de capitaux propres de fonctionner. Bon, ça c'est une décision du prince, du gouverneur. Bon, moi je ne sais pas dire qui a bénéficié de ça ou qui n'a pas bénéficié de ça. Bon, à supposer que une banque a bien libéré ses 10 millions de dollars de capitaux propres. Mais la libération a été totale. Mais les résultats accumulés, ça joue aussi. Si ça a été déficitaire d'année en année, le capitaux propre s'est réduit dans le dessous de 10 000. Eh bien, on peut liquider aussi. Il y a un problème de gestion des banques qui se pose.
Voilà, un problème
voilà
de gestion des banques.
Voilà,
nous avons Jean qui est à Kinshasa et Paulin à Kananga. Jean, merci de nous rejoindre. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le ministre, bonjour l'invité, bonjour parole auditeur.
Voilà, Jean, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je salue quand même la décision du gouvernement d'avoir supprimé cette banque qui ne semblait pas respecter les normes. Je crois que ce ne serait pas pour la première fois, mais nous sommes dans un pays où il y a plus ou moins plus de 30% des gens qui ne savent pas lire. Ça serait intéressant qu'on plante des banques qui sont plus ou moins fiables. Alors, il y a une grande inquiétude par rapport au fonctionnement des banques ici à Kinshasa. C'est bien, d'une façon générale. Mais nous remarquons que la plupart des gens qui passent pour retirer leur argent dans les différentes banques créées, ils ne comprennent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire la vulgarisation comme il se faut. Vous avez remarqué qu'un fonctionnaire qui passe, on lui remet, on verse dans son compte un certain nombre de montants, ce qui touche, il vient, il vide tout. Alors, au bout de deux, ils vont entendre l'autre mois. Il y a d'autres qui s'inquiètent, ils disent, mais est-ce que je peux laisser une partie de mon argent là-bas? Les uns disent, oui, vous pouvez laisser, d'autres, non. Donc, si vous laissez, le mois prochain, vous n'allez plus trouver. Je crois peut-être les différentes banques pourraient mettre même des dépliants pour expliquer aux bénéficiaires que si vous avez votre salaire qui est versé dans votre numéro de compte, vous pouvez garder ça, oui ou non. Vous pouvez laisser une partie, oui ou non, parce que même les intellectuels, s'il vous plaît, j'insiste, même les intellectuels, les enseignants, ainsi de suite, ils ne comprennent pas. Ils savent que, voilà, on a payé, c'est comme les agents payés, repassés dans chaque institution pour payer. Donc, vous devez tout prendre sans rien laisser. Pourtant, il y a possibilité de laisser. Alors, c'est ce que je voulais juste proposer. À nos banquiers pour qu'ils puissent nous aider au moins à ce sens-là.
Mais sinon, donc vous évoquez là le problème d'une certaine culture. Hein. C'est vrai que les banques doivent travailler aussi à ce niveau parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un déficit d'information au niveau des clients et ceux qui viennent s'engager auprès de banques. Merci Jean d'avoir appelé de Kinshasa. Paulin, vous êtes à Kananga. Bonjour.
C'est Colin du Bando à Kananga.
Voilà, Colin, vous êtes avec nous. Que pensez-vous de la...
Je suis avec vous. Je voudrais aborder presque dans le même sens que l'auditeur tout à l'heure.
Oui.
Où il y a un problème de vulgarisation. Les gens ne savent pas que la banque peut refuser certains services. Mais quand on hypothèse où la banque commençait à vulgariser ses services, c'est déjà compliqué. Ici à Kananga, nous n'avons que deux banques. Nous avons la Banque Centrale et nous avons aussi la BCDC. Alors, Ecobank, Citibank, Rebank, notamment nos affaires ne voient ça que dans les revues ou à la télévision. Alors, vous prenez le pauvre salarié de l'État, on lui donne 33 000 francs, et je ne sais pas s'il a un compte en banque, mais on lui donne 33 000 francs. Il va prendre combien, il va laisser combien. Donc, il y a un problème de pauvreté extrême. Et il n'y a pas lieu de parler de service de banque. Plus de gens comme ça. Alors la banque, ici chez nous, c'est l'apanage de ceux qui font un peu de commerce, quelque chose comme ça. Mais le commun des Congolais, des Canadiens, non, ça c'est pas le problème. Hein. Ça, franchement, il faut que beaucoup d'années passent par là et on va en parler.
Voilà,
c'est ça mon opinion.
Voilà, merci beaucoup Paulin. Eugène, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Eugène.
Bonjour, c'est un journaliste.
Voilà, on va évoluer sur les services qu'offre actuellement la banque. Vous êtes à Kinshasa, et il y a plusieurs banques. Vous avez la chance d'avoir plusieurs. Il y a EcoBank, il y a des banques qui venaient de citer votre prédécesseur. Quand vous y entrez, est-ce que vous avez un mot sur les services qu'offrent ces banques actuellement?
Non, en tout cas, actuellement, le système bancaire de Chinois au Congo, c'est un marche fort. Prenons un exemple un peu typique pour les fonctionnaires de l'État qui sont maintenant orientés pour payer les banques aux banques.
Oui, la bancarisation de la paye.
La bancarisation de la paye des fonctionnaires. Il y a même ces gens-là qui passent même à la banque, voire même un à deux mois pour trouver un SNS qui a un petit salaire qui ne le fait même pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici au Congo? Les moyens pour les banques congolaises de ce Congo ne marchent pas, monsieur le ministre. Donc, il fallait que vous encore les créer encore le plus vite possible, comme ça, la paie ira facilement.
Donc, vous évoquez là le problème de la bancarisation de la paie des fonctionnaires et agents de l'État. Votre inquiétude tourne autour du temps que ces personnes passent auprès de ces banques, ne serait-ce pour retirer leur salaire. Donc, d'aucuns pensent, disons, passent même un, voire même deux mois, ils ne touchent pas leur salaire parce que les systèmes mis en place pour cette paye, elle est tellement lente, le système est très lent et très lourd.
Si, voire même les gens qui prennent l'argent, même c'est très longtemps. Alors, avec le système de valorisation à la banque, les gens quelqu'un part à la banque comme ça, ils souffrent souvent à la banque, il n'y a pas son nom à la banque. Alors, ce système bancaire, ce sont nos Congo.
Oui, donc quand vous parlez, Eugène, quand vous parlez de nom, donc vous êtes payé sur base d'une liste ou c'est directement viré sur votre compte? C'est vos comptes sont crédités.
Prenez un peu mon cas, monsieur le journaliste.
Allô?
Prenez un peu mon cas, moi-même, les cas, moi.
Oui, allez-y, votre cas.
Oh oui, je suis un fonctionnaire de l'État à l'ministère de l'EPSP.
Oui.
J'ai payé il y a très longtemps. Alors, quand j'ai payé, tant qu'on a fait la présence de la banque, je passe à la banque comme ça, je ne trouve pas mon nom sur le listing de paye. J'ai fait toutes les démarches possibles pour que je puisse les noms. Donc, il n'y a pas un plan et moyen que je peux faire, monsieur.
Donc, vous n'avez pas ouvert un compte auprès de votre banquier?
Je n'ai même pas un compte auprès de la banque que j'ai eu. Je n'ai même pas les noms sur la listing de paye.
Voilà, merci beaucoup Eugène d'avoir appelé de Kinshasa, merci et surtout d'avoir apporté cette contribution, hein, parce que bon, on ne savait pas comment ça se passait concrètement, parce qu'on a longtemps parlé de cette bancarisation, mais on n'avait pas d'information que tout était encore sur un listing ou encore sur des listes, et qu'il y avait d'autres fonctionnaires qui n'avaient pas encore des comptes. Nathalie, vous êtes également à Kinshasa comme Eugène, bonjour Nathalie.
C'est Nathalie, bonjour.
C'est Nathalie, voilà, je pensais que c'était Nathalie.
Oui, moi je voudrais plus intervenir dans le sens de l'organisation des finances publiques en RDC. Parce que le secteur bancaire, c'est un domaine public. Et ce domaine doit être organisé dans le sens des finances publiques de l'État. Mais si vous observez la façon dont tous les intervenants se sont défendus, vous allez vous rendre compte que l'État est pratiquement absent. Or, pour que l'État soit présent, il faut qu'il agisse dans le cadre de la réglementation et du contrôle. La réglementation étant le domaine de la Banque centrale, le contrôle, en principe, devait revenir à l'Inspection générale des finances. Mais si vous regardez la façon dont la gestion aujourd'hui se présente, vous allez vous rendre compte que l'Inspection générale des finances est absente dans l'organisation même de contrôle, parce que la Banque centrale se donne plus de pouvoir. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que dans l'organisation des finances publiques, l'État doit avoir toujours des revenus partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pour que ces revenus puissent entrer dans le budget de l'État, et l'État puisse le réaffecter dans des secteurs que lui estime nécessaires. C'est comme dans le cadre de l'agriculture, comme l'intervenant a présenté. En principe, toutes ces fuites de liquidités, tous ces transferts de revenus vers l'extérieur, l'État devait créer les mécanismes dans la loi des finances publiques pour que les pays puissent toujours obtenir quelque chose en matière de transfert de revenus, en matière de mouvement de revenus. L'État devait avoir de l'argent qui devait rentrer dans les comptes du Trésor et financer le budget.
Oui,
ce n'est pas le cas.
Oui, Nathalie, là, oui. Vous donnez quand même raison à cette position prise par la Banque centrale, disons, en suspendant ou en retirant l'autorisation des fonctionnaires à Mining Bank of Congo, qui avait logé son capital à l'extérieur du pays.
Parce que oui, là, je constate avec les autres qu'il y a un intervenant qui a présenté que ce n'est pas normal qu'une banque puisse fonctionner en RDC et disposant d'un capital à l'extérieur. Comment il a commencé à fonctionner? Ça c'est aussi un point d'interrogation. Donc ça voulait dire que quelque part, il y a une désorganisation créée par le circuit bancaire qui est géré par la Banque centrale, qui ne permet pas que l'État puisse bénéficier de tous ces mouvements de fonds, parce qu'en réalité, c'est un domaine de l'État où l'État devait obtenir des ressources pour financer son budget. Au Parlement, on est en train de chercher des ressources, mais je vous dis, il n'y a pas plus de ressources dans le secteur de finances que les banques, et que les assurances, et que les cotisations sociales. L'État ne se retrouve en rien dans tous ces secteurs-là. Alors on se pose la question, qu'est-ce que nous cherchons? Parce qu'en réalité, pour avoir l'argent, il faut savoir jouer sur le domaine de l'État. Mais les domaines de l'État sont là, mais l'État ne gagne rien dans tous ces domaines. Alors on se pose la question, on veut quoi en fait? Parce que toutes ces ressources-là devaient profiter à l'État pour financer les besoins de l'économie.
Voilà, donc au regard des services qu'offrent actuellement les banques en RDC, est-ce que vous avez un mot à dire? Parce que quand nous voyons les clients qui y vont, et puis finalement, avec ces dossiers de la bancarisation de la paye, est-ce que le service est de qualité?
Bon, quant à la bancarisation, je sais que, d'abord, ce n'est pas le gouvernement Matata qui a commencé ça, c'est le gouvernement Mobutu qui a commencé, et le gouvernement Matata n'a fait que relayer ce qui a commencé, mais sauf que ce que nous reprochons un peu, c'est cette rapidité de pouvoir donner jusque au petit peuple, parce qu'en principe, on devait aller progressivement comme le gouvernement Mobutu avait commencé, de sorte que ça ne puisse pas créer des problèmes qui créent aujourd'hui. Parce qu'on a cherché à faire ça rapidement, au point que ça crée beaucoup de problèmes. Mais de toutes les façons, c'est une bonne action qui a été faite.
Oui, il fallait commencer quelque part.
Pardon?
Parce qu'il fallait commencer quelque part, n'est-ce pas?
Oui, on a bien commencé, mais la façon dont on a élargi directement l'assiette pour donner à tout le monde, c'est ça ce qui a créé un peu beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes par-ci, par-là. Quand vous regardez tous ces problèmes-là, c'est juste le problème d'organisation, de matérialisation de la chose.
Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir appelé de Kinshasa. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour, Ismaël.
Bonjour, Jody.
Voilà, Ismaël, vous avez suivi Nathalie tout à l'heure, qui a évoqué le mécanisme dans les lois des finances publiques à mettre pour contrôler les banques qui opèrent en RDC, afin de permettre à ce que l'État congolais puisse rentrer dans ses droits et ainsi récupérer certaines ressources. Et vous avez la parole. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que vous pensez de la qualité des services qu'offre la banque opérant dans votre milieu?
Je n'ai aucun doute que je vais aborder dans le sens de mon prédécesseur qui était Kinshasa. Et j'avais voulu d'abord souhaiter l'état de ce qui s'est pris comme décision. C'est une juste mesure. Remarquez, par exemple, la banque est en, par exemple, à Munanga, ceux qui connaissent bien Katanga, c'est écologique. Ils sont à entre 200 quelques kilomètres et 300, mais c'est dans un coin fermé. Et on en voit, par exemple, il s'agit de payer maintenant les gens, il n'y a pas la somme là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous vous direz, attendez encore jusqu'à ce passé, bon, parce que le véhicule n'est pas arrivé, la route n'est pas bonne. Bon. Remarquez aussi que les comptes d'État hier, c'est Spaghetti au Congo. Ça, c'est autre chose. Bon, l'État toléré, il ne vérifie pas. Je vois que s'il y a une suite de vérification pour prendre cette décision. Et pour moi, je dirais encore qu'il faut que l'État mette d'abord la main sur ce genre de banque. Je vous donne une situation d'un frère. Premièrement, il y a un de nos grands frères qui avait investi dans la banque. Qu'est-ce qui est arrivé? Il avait construit, on avait commencé à lever sa maison avec une bonne fondation. Et aujourd'hui, j'étais très ample, j'étais très petit. Et jusqu'à ce que j'ai grandi, j'ai terminé mes universités. Quand on passe, on appelle cette maison-là les documents loués. C'est ça ce qui signifie qu'il avait l'argent. Il était l'échec, c'était parce qu'il avait investi à la banque et la banque n'a pas rendu des comptes à celui-là. Vous remarquerez aussi, c'est lui qui investit ailleurs, la banque, c'est ça ce que j'avais dit. Et les propriétaires de l'argent sont au Congo. Quand on bloque d'abord cette banque, il risque encore de tamper avec cet argent. Je me souviens, je passais par Canan, il s'est fait, ça fait presque 3 ans pour un directeur. Le premier directeur a avec l'argent. Le deuxième, même mal. Celui qui a suivi encore l'intérim a pris encore l'argent, il s'est décampé avec cet argent. Vous voyez, si la banque et la compte n'est pas ici au Congo, c'est tout à fait difficile pour vérifier et réverser même la situation. Il faut que l'État prenne d'abord la conscience.
Voilà.
D'investir aussi, ou soit d'admettre les banques. Par exemple, ici nous avons une banque, ainsi de suite. Et les banques qui se trouvent ici au Katang, précisément le Lubumbashi, ça fonctionne bien, vous pouvez recevoir votre compte sans avoir eu de problème. Je vais encore vous donner une situation.
Oui, allez-y rapidement, parce qu'il y a Franklin qui attend, qui appelait de l'Allemagne.
Non, bon, j'ai limite par ici. Et vous allez maintenant, quand vous déposez votre argent, c'est facile, là, vous êtes honoré. Maintenant, au retrait, vous risquerez même de manquer même la chaise pour vous mettre. C'est ça, c'est que nous cherchons d'abord à signer l'impunité dans ce genre de choses. Merci.
Merci, Ismaël. Franklin, vous êtes en Allemagne. Vous êtes avec nous. Bonjour, Franklin.
Oui, bonjour, monsieur Gère, bonjour à tous les intervenants et aussi à l'invité.
Voilà, Franck, vous avez la parole.
Oui, je vous en prie pour le choix de ce sujet. Beaucoup d'intervenants ont déjà thématisé l'essentiel de ce qui doit être dit. Depuis un certain moment, je me rends compte que il y a beaucoup de succursales bancaires qu'on a installées, qu'on a ouvertes chez nous en République démocratique du Congo. C'est d'abord quelque chose de positif qu'on ait autant d'établissements bancaires pour faciliter certaines transactions financières des citoyens congolais. Mais le problème qui se pose là, c'est au niveau de l'administration. Par rapport à ce qui est d'abord dit, on doit d'abord se demander pour cette banque qui venait d'être suspendue ou pour cette banque à qui l'autorisation de fonctionner est retirée. Est-ce qu'on peut dire d'abord les vraies raisons? Parce que en matière d'administration bancaire, il y a quand même un certain nombre de préalables qui doivent être de mise avant qu'une banque puisse avoir l'autorisation d'ouvrir ses portes.
Oui.
Donc, quelque part, ça donne à penser qu'une banque ait une succursale dans un pays et son capital soit logé dans des banques en dehors de ce pays-là. Ça signifie qu'il y a des mèches, il y a des ramifications de complicité qui devrait encore être démantelé à ce niveau-là. Ça ne suffit pas de dire qu'on a retiré l'ordre de fonctionner, mais on doit dire au peuple, aux citoyens congolais, qu'est-ce qui n'a pas été en place. Et
depuis,
il y a des banques qui fonctionnent chez nous, mais parfois, moi, personnellement, je me pose la question de savoir si ces banques-là servent seulement la capitale ou ça doit aussi servir toute l'étendue du Congo, quoi. Parce que dans certains coins, moi je suis de Bandundu, je connais un peu les problèmes de Bandundu, à Kikuta, à Kenge, à Bandundu, à Nyoki, il n'y a pas autant de banques quoi. Bon, peut-être qu'on dira que la capitale c'est la capitale, il y a beaucoup de gens, mais pourquoi toutes ces banques-là ne s'intéressent qu'à la capitale? C'est la question que je me pose toujours. De trois, il y a beaucoup de lourdeur au niveau de l'administration. Donc, ouvrir un compte chez nous, c'est comme du luxe quoi. Vous avez votre compte, mais pour avoir accès à votre argent, parfois on vous fait faire des tours, surtout pour nous qui habitons l'extérieur du Congo. On peut faire un virement de son compte à notre compte de Kinshasa, mais on doit vous soumettre à des interrogatoires comme si cet argent-là venait de circuit massif, quoi. Et quelque part, ça décourage un peu de voir que ceux qui travaillent avec des intentions saines sont vraiment contrôlés comme s'ils étaient des voleurs, et ceux-là qui sont dans de la manipulation floue ne posent aucune difficulté pour avoir accès à leur argent. Donc, s'il y a possibilité de faciliter le citoyen congolais d'avoir des comptes, ça serait mieux, bien. Mais si, quand quelqu'un a un compte, on peut lui faciliter d'avoir une carte électronique, il n'est pas obligé d'aller se présenter devant le guichet. Quand il y a des automates partout, il peut aller se servir librement pourvu que la banque contrôle le solde de ses clients. Quoi. Donc, il y a quelques succursales bancaires, mais quant à la manière de leur fonctionnement, ça pose encore beaucoup de problèmes. Ça pose encore beaucoup de problèmes. Et le chapitre des crédits, ça, c'est encore un chapitre très, très épineux. Je ne sais pas si ces banques-là sont à mesure d'octroyer des crédits
à long terme
à leurs clients, ou ce sont seulement des clients qui doivent ouvrir des comptes dans leur banque. Alors, une banque qui ne sait pas octroyer des crédits à ses clients, elle sert vraiment à quoi? C'est un peu ça, un certain nombre d'interrogations auxquelles je ne cesse de me confronter.
Merci beaucoup, Franklin, d'avoir appelé l'Allemagne. On va terminer cette émission, donc le dernier auditeur, avec Raphaël qui est à Ouvira. Raphaël, bonjour.
Oui, bonjour. Je salue aussi les auditeurs de Radio Okapi. Je dis que bon, le secteur bancaire, ici c'est chez nous à Ouvira, nous commençons à voir que quelques banques qui sont en train de venir. Nous avons la TMB qui a été installée ici. Il y a le BIC qui est en train de s'installer. Et le constat que nous avons ici, c'est que nous vivions avec des coopératives, c'est-à-dire des institutions de microfinance qui aidaient la population. Mais malheureusement, ces institutions sont en train d'être démantelées petit à petit. Il y a l'exemple de la coopérative d'Ouvira qui était là depuis une vingtaine d'années. Elle est en pleine liquidation. On n'a pas expliqué à la population pourquoi. Et il y a la Banque centrale a nommé un liquidateur qui a promis de remettre les épargnes des membres, mais jusque-là, rien n'est fait. En fait, nous sommes en train d'assister à la frustration de la population par rapport à cette question-là. Je ne sais pas ce que pense l'autorité monétaire à ce sujet-là, parce que nous avons constaté qu'il y en avait d'autres, et à chaque fois qu'il y a un liquidateur qui arrive, il y a tout un flou qui se passe, et puis il y a un silence. Donc, le secteur bancaire est vraiment à restructurer.
Donc, il n'y a pas que le cas de la coopérative d'Ouvira que vous venez d'évoquer. Il y a notamment le dossier de la Banque du Congo, BC, qui est jusque-là est resté en suspens. Donc, aucune information jusque-là n'a filtré par rapport à la liquidation et par rapport à l'audit qui a été diligenté. Merci beaucoup, Raphaël. On va revenir à vous, notre invité, André Moloto. Professeur André, vous êtes encore avec nous?
Oui, j'écoute, oui.
Voilà, on va conclure avec vous aujourd'hui, vrai. S'il y a amélioré, pour arriver à améliorer la qualité des services qu'offrent aujourd'hui les différentes banques opérant en RDC, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Bon, écoutez, je vais d'abord réagir sur ce que les directeurs auditeurs ont dit. Je crois qu'il y a un principe en économie qui est reconnu, c'est que le pauvre n'épargne pas. Il a besoin de tout son argent pour sa survie. Ok? Alors c'est pour cette raison qu'il enlève tout quand quelque chose est versé à son compte. Mais de l'autre côté, les banques ont les frais de tenue de compte. Voilà le dilemme. C'est pour ça que certaines banques, je les défends pas, mettent un montant, la hauteur d'un montant assez élevé pour ouvrir un compte, pour régler tous ces cas-là. Alors, vous êtes revenu un peu sur la banque congolaise. Il n'y a pas que la banque congolaise, il y a les anciennes banques d'État. La liquidation n'est pas encore terminée. Hein, beaucoup de gens, de mes ex-agents de la BCA sont morts sans toucher leur décompte final. En ce qui concerne la banque congolaise, ce que je peux vous dire, les informations que moi j'ai, c'est que le comité de liquidation a été prolongé d'une année. Oui, pour des raisons que la Banque centrale a évoquées. Donc, le travail est encore en cours. Alors, ce qu'il faut améliorer, je n'ai pas de leçons à donner. Bon, je crois que la Banque centrale, d'abord, toutes les banques sont les institutions nécessaires au développement d'un pays. Une institution capitale.
Oui, professeur, rapidement, 30 secondes, parce qu'on va conclure. On va conclure 30 secondes.
La Banque centrale doit jouer son rôle de réglementation et de contrôle. Ce n'est pas l'inspection des finances. Mais les autres banques n'ont qu'à bien gérer leur patrimoine. Voilà ce que je peux dire pour conclure.
Voilà, merci professeur d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci aussi
à
tous.
À très bientôt, merci à vous.
Voilà.
Allô ? Mais ils ne répondent pas ?
Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Sylvain, à Titi et à Pierrot qui ont réalisé cette émission présentée par J.R. Ngembo et supervisée par Nicole Ngaka. Réécoutez ce programme sur www.radioocapi.net. De plus en plus, les auxiliaires de la justice et la police nationale congolaise se plaignent de l'attitude de certains magistrats. Ces derniers relâchent rapidement certains inciviques et autres bandits arrêtés et ces personnes en liberté sèment à nouveau de l'insécurité dans leur milieu. Ceci relance les débats sur la réforme de la justice amorcée depuis 2002. Où en est-on avec cette réforme? Nous allons faire ça comme débat demain. Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À très bientôt.